7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins, l'école à la radio, pour continuer à apprendre en ces temps de pandémie et de fermeture des écoles. Au menu aujourd'hui, des mathématiques et de la cuisine avec l'enseignante Sarah Vauquier. Bonjour Sarah.
Bonjour Emmanuel.
Vous accompagnez les enfants toute cette semaine et je dois dire que votre imagination n'a pas de limite pour enseigner. Vous allez proposer aujourd'hui aux enfants de 6 à 8 ans de créer un restaurant pour animaux. Bon, c'est pour de faux, hein. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire? On va chercher la poule dans la cour?
Non, alors plutôt pas des animaux qui bougent, ça va être difficile sinon. Mais au niveau matériel, les 6-8 ans, vous avez besoin de 3 animaux peluches ou des dessins d'animaux que vous avez fait, des photos. Moi, j'ai même des petits animaux en plastique devant moi. Et puis, dans un sac, il vous faudrait de la nourriture pour vos animaux, au moins 20 éléments de nourriture. Et si vous avez un petit miroir que vous trouvez peut-être dans la salle de bain de votre maman qui se maquille.
Voilà, et je rajouterai un dé, sinon on peut le fabriquer hein, avec un caillou, avec
tout
un petit
fait,
cube en papier.
Dessus, oui.
Et pour les 8-10 ans, il y aura des recettes de cuisine, l'occasion de faire quelques conversions. Alors là, il suffit juste d'une feuille, d'un crayon, d'une gomme. En fin d'émission, après l'histoire du jour, on continuera à compter avec Didier Akwété qui répond à des questions d'entrepreneurs en Afrique où les fins de mois s'annoncent compliquées. C'est l'occasion de nous appeler d'ailleurs pour poser vos questions. Vous nous laissez des messages en décrivant votre petite entreprise et vos difficultés. Numéro de WhatsApp 33 1 84 22 71 71. L'émission est réalisée comme chaque jour en direct avec une équipe en confinement et en studio. C'est Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Hugo Violas, Michael Goncalves et moi-même. Et bien sûr, vous avez la parole, les enfants et tous ceux qui les aident aussi pour faire l'école à la radio.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Bonjour 7 milliards de voisins, je suis Wendy Agenti, j'ai 9 ans, je suis en Haïti. J'aime l'émission parce que les exercices de maths sont intéressants. Grâce à l'enseignante, j'ai pu découvrir les animaux que je n'avais pas encore connus. Et j'avais fait la couche. Chez nous, on utilise ce récipient pour mettre de l'eau, surtout à la campagne. Merci.
Voilà. Merci Windia pour ton message et un petit coucou aussi à tous les voisins en Haïti qui, avant même le risque de pandémie, vivent une situation scolaire très compliquée. On en a déjà parlé chez 7 milliards de voisins. On pense bien à vous tous. Quelques messages aussi postés. Il y a pas mal d'enseignants en ce moment qui nous contactent. Un voisin à Dakar nous dit que les leçons de Sarah sont tellement intéressantes. Chaque fois qu'elle commence, je prends mon ordinateur pour noter ses méthodes. Je suis instituteur dans les petites classes. Un internaute enseignant au complexe scolaire de Valou en RDC. Il est fan de l'émission et de la manière d'enseigner. Alors, manière d'enseigner, elle change en fonction des enseignants et c'est ça qui est super. Ça fait 3 semaines que notre gouvernement a fermé les écoles. Ça nous permet de continuer à apprendre. Abdou à Lomé, au Togo. J'aime les cours de Madame Sarah, ça nous permet de réfléchir. Iba sur la leçon d'hier. C'était vraiment précis cette leçon. Tout enfant à l'écoute peut utiliser les mots pour décrire ce qu'il peut toucher. Partout où on vit, on est entouré d'objets lisses, rugueux, légers, lourd. Timothée Akisangani en RDC nous dit qu'il a suivi avec beaucoup d'intérêt la leçon sur les adjectifs. Est-ce que je peux utiliser cette méthode avec les adjectifs en anglais? Question pour vous, Sarah. Vous avez vu tous les messages qui vous sont adressés.
Alors, tout ce qu'on fait dans les langues, ça s'applique à n'importe quelle langue. On peut travailler l'allemand, le français, l'anglais, d'après le niveau d'élève que vous avez. Moi, j'utilise avec les enfants de 10 à 12 ans aussi des termes dans d'autres langues.
Merci. Moussa, un dernier message que je vous lis. Il est prof de sciences de la vie et de la terre à Rosso, en Mauritanie. Il a adoré le mystère de la moustache blanche. C'était l'histoire racontée aux enfants. Et d'ailleurs, vous allez bientôt pouvoir retrouver toutes nos histoires en podcast. Un peu de patience, on va vous livrer toute une saison dans quelques jours. J'espère, comme ça, vous n'aurez pas besoin de réécouter toute l'émission pour retrouver juste l'histoire racontée aux enfants. Allez, dans quelques secondes, on va démarrer avec vous, Sarah Vauquier, et bien sûr, vos appels au 33 1 84 22 71 71, vos messages écrits et audio.
Milliards de voisins.
L'école à la radio.
Sarah Vauquier, alors on commence par quoi? Des activités mathématiques pour les plus petits?
C'est ça, oui, avec les parents bien sûr qui peuvent aider les enfants et aujourd'hui même jouer avec les enfants. Donc, parce que, on va justement, comme vous avez dit Emmanuel, faire un restaurant pour animaux aujourd'hui.
Ouais. Alors là, je dois dire que quand vous m'avez annoncé ça, je me suis un peu gratté la tête quand même. Hein.
Donc, pourquoi faire ça déjà? Parce que tout enfant que je connais aime bien les animaux.
Oui, c'est vrai.
Donc, c'est une raison de motivation. Et puis, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais moi, nous, on a beaucoup d'animaux qui courent pour l'instant autour de la maison. Ouais. On a des poules, des canards, des lapins, des moutons, un chat, un chien et des milliers d'abeilles. Ouais. Et je ne sais pas, vous.
Alors,
j'ai des animaux.
Ouais, là dans le studio de RFI, pas trop. Quoi. Je peux peut-être chercher une fourmi sous la moquette, mais bon. En tout cas, vous forcément, Sarah, vous êtes confinée en Franche-Comté, vous êtes au village, au milieu de la nature, mais il y a beaucoup d'enfants qui nous écoutent, qui ont des chats qui traînent dans la ruelle, des poules, des coqs que l'on entend souvent d'ailleurs quand ils nous appellent. Alors, on commence par quoi du coup?
Déjà, vous pouvez nommer avec vos parents quels animaux vous entourent. Et ceux qui n'ont pas d'animaux domestiques, peut-être que vous avez des insectes dans la maison, une mouche ou quelque chose comme ça. Donc réfléchissez un moment, quels animaux habitent chez vous, dehors ou dedans.
D'accord, donc on compte.
Ah oui, on peut compter. Moi, par exemple, j'ai un chat, un chien, 3 canards... 4 poules, 6 moutons, 15 lapins.
Ah là, j'ai plus assez de mains, j'y arrive plus là, Sarah. J'ai
pas noté. Beaucoup, hein,
ah bon, vous m'avez pas demandé le total, ça va.
Non, je ne demande pas le total. Juste de compter combien d'animaux vous voyez, vous entourez.
D'accord. Et alors, quand est-ce qu'on arrive au restaurant pour animaux? Parce que là, je suis très intriguée.
Exactement. Donc, on a besoin de vos 3 animaux que vous avez dessinés, ou les peluches, les figurines que vous avez cherchées, et puis le sac avec de la nourriture pour les
D'accord.
animaux.
Bon, à mon avis, dans le tas, il y aura une poule, hein, parce que ça, c'est assez facile à nourrir. On peut toujours trouver du grain, des épluchures.
Ok, nous, tout le monde, on va se transformer en propriétaire d'un restaurant pour animaux. Et ce restaurant, aujourd'hui, il est ouvert chez vous. Vos 3 animaux, ils vont au restaurant chez vous ce midi. Donc, vous pouvez les placer devant vous, par terre, sur la table, où vous êtes.
Oui. D'accord.
C'est fait?
Ouais, ouais. Ça y est,
alors,
c'est bon.
Je vais lancer
je vois bien la situation. Ouais.
Et je vais vous dire combien de nourriture de votre sac va commander chaque animal.
Donc on est bien d'accord.
Il y a un premier animal qui va commander chez moi, c'est l'écureuil.
Ah, d'accord. Alors les enfants, vous avez peut-être un dessin de poule, un dessin de chat, une peluche de d'oiseau, je sais pas. Et donc vous avez lancé le dé.
L'écureuil commande chez moi des noisettes.
Ouais.
Le premier animal commande 3.
3.
Donc je sors de mon sac 3 noisettes pour l'écureuil.
D'accord.
Et vous sortez de votre sac la même quantité de nourriture pour votre premier animal.
Voilà. Alors ça peut être des petits cailloux, hein, bien sûr. Vous n'allez pas gaspiller de la nourriture, ou ça peut être des grains de riz que vous avez, hein. 3, d'accord. Ensuite, le deuxième animal, il commande
deuxième
quoi?
Deuxième animal, donc écureuil a 3 noisettes devant soi. Votre animal a 3 choses que vous avez dans le sac devant vous. Je lance le dé. Le deuxième, il commande 6.
Ah.
Et moi, c'est la poule. Elle reçoit 6 graines.
D'accord. Bon, et si vous avez une poule, les enfants, on va lui mettre 6 petits morceaux d'épluchure, par exemple. Donc, on a bien 3 devant le premier animal, 6 devant le deuxième.
Et maintenant le troisième. Je lance le dé. Lui, il commande 4. Chez moi, c'est le lapin. Et lui, il reçoit 4 feuilles de pissenlit.
Très bon. Donc, on a 3, 6 et 4.
Et 4. Est-ce que vous avez pu donner 4 à votre troisième animal entre-temps ?
Ouais, ça y est, je pense là qu'ils ont préparé de la nourriture, qu'ils ont donné ça devant les animaux. Vous avez vu, c'est facile en tout cas à reproduire.
Ben maintenant, donc... je vais vous poser des questions. Hein. Combien les 3 animaux ont-ils commandé en tout ? Et on calcule, hein. 3 plus 6 plus 4, ça fait combien ?
Alors, on a le droit de compter avec ses doigts pour les plus petits ?
Alors, bien sûr, vous regardez la nourriture que vous avez posée.
Et on compte tout simplement ce qu'il y a devant les animaux.
C'est ça. Et ben moi, j'arrive à 13.
Et ben moi aussi.
C'est très bien.
Alors, moi, j'ai fait 6 et 4, 10. Et ensuite, je rajoute le 3, ça fait 13.
Oui, ça, c'est un calcul très simple hein, pour faire 3 plus 6 plus 4. Mais bon, ces animaux, ils ont toujours faim. Ils veulent aujourd'hui une double portion.
Oula!
Aïe, ça D'accord. c'est combien pour le premier animal ?
Alors.
Pour ça, vous avez maintenant besoin de votre miroir. Donc, moi je prends mon miroir, je le mets derrière les noisettes de l'écureuil, et puis on voit de la nourriture dans le miroir et devant le miroir.
D'accord, je me demandais à quoi allait servir le miroir. Donc on voit bien les 3 noisettes que vous avez mis devant l'écureuil,
c'est
et
ça.
On voit en double avec le miroir. Donc on revoit 3
noisettes
autres...
sur la table, 3 noisettes dans le miroir, 2 fois 3, ça fait
6. Et on va faire pareil avec le miroir pour l'autre animal qui a commandé 6.
Qui a commandé. Donc d'abord, on va rajouter encore 3 noisettes de notre sac sur le plat de l'écureuil. Il faut reprendre de votre sac la double portion. L'écureuil a 6 noisettes devant soi maintenant.
C'est bien noté.
C'est bien noté. On passe à la deuxième, ou le deuxième animal, la poule. Vous pouvez mettre le miroir derrière sa nourriture. Moi, j'ai mis des graines, donc je vois 6 graines devant le miroir, 6 graines dans le miroir. Donc ça fait 2 fois 6 égale...
Eh bien, ça fait 12.
12. Rajoutez 6 éléments du sac sur le plat de votre deuxième animal.
Alors évidemment, pour ceux qui connaissent très bien la table de 2, ils peuvent aller plus vite.
Ah, ça c'est clair. On fait le troisième, le lapin. Je vois 4 feuilles devant le miroir... 4 feuilles dans le miroir, 2 fois 4, ça fait...
Ça fait 8.
8. Donc, rajoutez aussi 4 éléments de votre sac pour votre troisième animal.
Donc, maintenant, ce miroir, je comprends bien, c'est pour que l'enfant comprenne le principe de la multiplication, c'est ça,
c'est
du double.
Ça, c'est doubler des quantités. J'ai des élèves qui ont essayé avec 3 fois 4 miroirs de tripler, de quadrupler les quantités. Donc, si vous en avez plusieurs de ces miroirs, vous pouvez tester ça. Et si c'est trop facile pour vous, vous prenez plus de nourriture aussi et vous doublez les plus grandes quantités.
Alors maintenant qu'on sait que tous ces animaux qui ont décidément très faim ont commandé une double portion, quelle est la question que vous allez poser, la question mathématique ?
Ben voilà, mais ils ont faim, mais tout le monde mange 5 éléments de sa nourriture. J'enlève donc 5 noisettes à l'écureuil. 5 graines à la poule et 5 feuilles de pissenlit au lapin. Donc faites pareil avec vos 3 animaux.
Donc, il ne reste plus du tout la même chose que ce qu'on avait avant. Il en reste beaucoup moins,
oui.
Puisqu'ils ont mangé.
Donc, on va regarder le premier animal. Qu'est-ce qui lui reste dans son plat hein ? Il avait 3. Il avait 6. Hein. On a doublé 6. Moins 5, il vous reste normalement un élément.
Oh, avec plus grand chose.
Une noisette pour moi.
Le deuxième. Alors, il y avait la poule avec ses graines.
La poule, elle avait 12 graines, elle en a mangé 5. Il lui reste combien ?
Il lui reste 7 graines. Si vous comptez, vous allez trouver ça normalement, les enfants.
Et puis le lapin, il a bien mangé ses feuilles de pissenlit. Lui, il avait 8. On enlève 5, il lui reste combien ?
Il lui en reste 3. Ça mange, un lapin. Oh là là.
Ah ouais, oui. Bon, heureusement que vous n'avez pas pris en vivant, parce que je crois, entre-temps, il n'aurait plus de feuilles de pissenlit devant soi. Ben voilà, donc ça, vous pouvez faire avec des chiffres plus grands, avec d'autres calculs plus tard après l'émission. Maintenant, hein, les animaux, ils sont très conviviales, ils collaborent aussi, ils s'aiment bien. Ils décident de partager les restes entre eux. Donnez maintenant à chaque animal la même quantité de nourriture. Moi, je partage donc les noisettes, les graines et les feuilles de pissenlit entre l'écureuil, la poule et le lapin.
Alors, ça veut dire qu'il faut déjà qu'on ait additionné ce qui restait pour chaque animal. On avait dit que le premier, il restait 1. La poule, il lui en restait 7. Le troisième animal, il en restait 3. Hein, c'est ça.
Ça. Vous pouvez tout simplement, avant de calculer, juste distribuer et regarder si vous pouvez donner la même quantité à chaque animal.
Ah, d'accord.
Ouais. Donc, ça fait combien par animal? Qu'est-ce que vous avez reçu?
Alors, ils ont distribué, ils ont fait un à chacun, puis un autre tour, un à chacun, encore un autre tour, un à chacun. Donc, ils ont distribué 3 à chacun. Et ensuite, eh ben, il n'y a plus de quoi distribuer équitablement.
Ah oui, oh là là, il nous manque de la nourriture pour un animal. Hein. Il n'y en a que 2 qui restaient.
Ouais, parce qu'il restait 11. Et si on distribue, donc on est sur un principe de division. Eh ben, 11 divisé par 3.
Ça fait un reste.
Eh ben, ça cause un problème.
Et on reste 2.
Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Pour que chaque animal ait 4, combien de nourriture doit-on rajouter du sac?
Pour que chaque animal ait 4, sachant que là, ils ont chacun 3 morceaux de nourriture, puisqu'on a partagé les restes.
C'est ça. Et pour chez moi, en fait, 2, ils ont 4 et 1, il n'a que 3.
Eh oui.
Donc, je le rajoute encore un élément du sac.
Voilà.
Et là, on a en tout 12. Mmh. 12 divisé par 3, ça ne fait pas de reste, ça fait 4.
Exactement. Donc, tout ça, finalement, ça a permis de revoir le principe de la multiplication. On a vu évidemment l'addition avant. On a vu de la soustraction et on a vu une ébauche de division, finalement.
C'est exactement ça. Et puis après l'émission, vous pouvez vraiment continuer à jouer avec vos frères, vos sœurs, vos parents. Et comme Emmanuel vous a dit, on peut aussi fabriquer un dé, si vous n'en avez pas, avec du papier. Moi, je modèle parfois même avec de la terre argileuse et je fais des points pour les petits trous qui sont sur mon dé. Ou tout simplement, vous pouvez écrire des chiffres de 1 à 6 sur une feuille et faire tourner un objet au milieu. C'est un détournant.
Et alors, on aimerait bien, les enfants, que vous puissiez envoyer des photos de votre restaurant pour animaux. Comment vous avez imaginé ça? Qu'est-ce que vous avez donné à manger à vos animaux? Les portions, les calculs? Envoyez-nous postez-nous ces photos sur WhatsApp au 33 1 84 22 71 71. Sinon, vous demandez aux grands frères ou aux grandes sœurs qui vont poster ces photos. Ça serait très sympa. Et nous, Sarah, alors, les plus grands, là, quand est-ce qu'on mange? Quand est-ce que, parce que là, j'ai l'impression que vous nous avez dit qu'on allait cuisiner.
C'est ça, hein, ouais, ça fait clairement faim. Je dis encore juste pour les plus jeunes, hein, si vous avez des animaux vivants autour de vous, allez les nourrir avec vos parents et comptez et notez ce qu'ils mangent et combien. Les parents, vous pouvez aider les enfants à peser, à noter les ingrédients. Et vu que ça donne très faim, on aimerait manger aussi, hein, on va passer aux recettes de cuisine. Et cette séquence-là, elle est pour tout le monde. Les 6 ans, autant comme les 10 ans, autant comme les parents.
Bon, alors tout le monde reste bien à l'écoute, hein.
Oui, pour ça, mais je vous demande, Emmanuel, quel est votre plat préféré?
Ah ben moi, c'est toujours du sucré, gâteau au chocolat.
Gâteau au chocolat, ben d'où vient cette recette? Vous avez une idée?
Culturellement, je peux pas vous dire. Je sais que le cacao, on en trouve bien sûr en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Mais culturellement, c'est vrai que c'est très répandu. Mais vous, j'imagine que vous avez une vraie recette suisse-allemande, Sarah, puisque
c'est
ce sont vos origines.
Bien sûr, hein, mais je vous parle un peu de un de mes plats préférés qui s'appelle la Rösti. C'est une recette traditionnelle suisse-alémanique. Ben, on met des pâtes à râper, on met du beurre et on fait frire, rôtir tout ça dans une poêle. Moi, personnellement, je rajoute des oignons aussi ou du fromage et des herbes.
Oula, ça me donne
et
faim,
ça. Je me suis renseignée un peu d'où ça vient ce nom et l'historique de la Rösti. Et le nom Rösti, ça vient de Röste, ce que veut dire en suisse allemand rôtir. Donc, c'est quelque chose qu'on rôtit dans une poêle. Et d'origine, c'était le déjeuner des paysans chez nous. Hein. Ils mangeaient la Rösti après la traite le matin ou avant d'aller au travail, parce qu'il faut avoir un plat très consistant dans le ventre pour être, pour travailler toute la journée avec les animaux et dans les champs. Et chez nous en Suisse, en fait, cette recette, elle est même politique. Hein. On parle du Röstigraben. Ça, c'est le rideau de Rösti qui désigne la frontière et les différences culturelles aussi entre la partie alémanique et la partie francophone. À l'ancienne, on dit d'un côté, on mangeait la Rösti et de l'autre, non.
Ouais, d'accord. Effectivement, oui, c'est vrai que ces galettes de pommes de terre, elles sont délicieuses. Moi, je trouve ça assez long à faire parce qu'il faut râper les pommes de terre. Mais une fois que c'est dans la poêle avec ce petit goût d'oignon, de beurre frit, c'est absolument délicieux. Alors, qu'est-ce que vous allez proposer aux enfants?
La même chose que j'ai fait en amont de cette émission. Donc, vous allez enquêter votre famille déjà sur leur plat préféré et un plat traditionnel. Et puis, si possible, avec vos parents, en réaliser un plat traditionnel. Alors, pour la suite, ça va être utile que vous notiez les questions à poser lors de votre enquête. Je vais vous dire quelques questions que vous allez, après l'émission, poser à vos grands-parents, vos parents, à vos tantes et oncles. Vous pouvez les appeler par téléphone et les interroger. Première question, c'est quel est ton plat préféré? Donc là, j'aimerais savoir les plats de vous, les enfants, mais aussi de maman, de papa, de grand-maman, de grand-papa.
Oui. J'espère que vous allez nous envoyer des réponses sur WhatsApp, sur vos plats préférés.
Vous avez pu noter, j'espère. Donc, deuxième question. Est-ce que tes parents et tes grands-parents ont déjà goûté à ton plat préféré quand ils étaient enfants? Et là, ça m'intéresse aussi de savoir si tes parents, tes grands-parents, ils n'ont pas goûté à ton plat préféré. Pourquoi ils n'ont pas pu faire ça? Et troisième question, c'est un peu en lien. Qu'est-ce que tes parents ou tes grands-parents ont mangé quand ils étaient petits?
Ah, ça c'est intéressant parce que parfois les grands-parents ne mangeaient pas la même chose. Il y a des plats qui se perdent, parfois très longs à préparer qu'on ne prépare plus.
C'est ça. Et juste avant de vous poser la question, est-ce que c'est la même chose que vous, les enfants, vous mangez aujourd'hui? Pourquoi oui, pourquoi non?
Donc l'enquête, c'est vraiment interroger sa famille sur les plats préférés. Qu'est-ce que les grands-parents mangeaient autrefois? Est-ce que c'était la même chose ou pas? Est-ce que les grands-parents ont déjà goûté le plat préféré, votre plat préféré, les enfants? Donc posez-vous plein de questions autour de ce que vous aimez manger.
Et bien sûr que vous pouvez en rajouter d'autres, toutes les questions qui vous intéressent autour des plats. Et puis, quatrième question, elle est un peu plus longue. Donc, enquêtez vos parents ou vos grands-parents sur une recette traditionnelle. Peut-être parfois, il y a des noms un peu étranges. Pourquoi cette recette s'appelle ainsi? Quels sont les ingrédients? Et d'où vient-il? Et puis, à quelle occasion on cuisine cette recette? Ça, c'est toutes les questions que vous pouvez poser autour d'une recette traditionnelle.
Ouais. Alors, par exemple, l'attiéké, moi, c'est ce qui me vient à l'idée. Ça serait intéressant que vous puissiez nous poster des réponses sur les origines de l'attiéké, pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est un plat qui est très apprécié dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Voilà, si vous êtes dans l'un de ces pays, vous pouvez vous poser des questions autour de ce plat. Et on peut prolonger indéfiniment autour de la cuisine parce que c'est vraiment une occasion, Sarah, d'apprendre des mots, d'apprendre du vocabulaire, notamment sur les ingrédients qui sont utilisés pour fabriquer un plat.
Tout à fait. Et puis, si vous êtes jeune, vous ne savez pas encore bien écrire. Mes filles, quand elles avaient 6 ans, ils ont dessiné ces plats sur une feuille. Ça, c'est possible aussi. Ce que les grands-parents ont mangé le matin, le midi, le soir. Et après, une fois que vous avez enquêté sur cette recette traditionnelle, notez avec l'aide de vos parents ou de vos grands-parents la recette traditionnelle sur une feuille. Notez donc tous les ingrédients et aussi les mesures, donc combien il faut de chaque ingrédient, combien de temps il faut le laisser cuire aussi.
Alors ça, c'est intéressant parce que vous avez abordé la question des mesures et l'activité suivante, Sarah, on peut la faire pratiquement en direct avec vous. Vous proposez aux enfants de 8 à 10 ans de fabriquer leur propre balance. On n'a pas forcément une balance à la maison parce que d'abord, les tantes, les mamans fabriquent, cuisinent beaucoup un peu à l'intuition. Elles ont le sens des proportions comme ça, avec la cuillère, la louche. Et c'est vrai qu'on mesure pas toujours. Mais si on a envie de faire de la cuisine et des mathématiques, c'est bien d'avoir sa propre balance.
C'est ça. Donc, comment on fabrique une balance? Vous avez besoin d'un bâton ou d'un cintre. Moi, j'ai dû regarder ce que ça veut appeler en français. C'est le truc où on met les manteaux, par exemple.
Ouais.
Avec ça, vous pouvez fabriquer votre propre balance. Donc, vous allez prendre le bâton et fixer à droite et à gauche un sachet, un panier ou des boîtes. Donc, il y a un panier à droite, un panier à gauche. Mettez dans un de ces récipients une unité de mesure, par exemple 1 kg de riz, 100 g de haricots, 1 g de graines, et dans l'autre, un ingrédient du menu. Et puis, si vous tenez le cintre, le bâton au milieu, quand il est horizontal, le poids de votre ingrédient de menu correspond au poids de l'unité de mesure.
Voilà.
Comme ça, vous pouvez vous amuser à mesurer des quantités, 100 grammes exactes, ou 200 grammes, c'est le double, donc il faut mettre deux unités de mesure, etc.
Donc, si la marchande à qui vous avez acheté le matin 1 kg de riz, vous avez mis le kilo de riz, de l'autre côté, vous mettez du riz jusqu'à ce que le bâton soit bien horizontal et vous êtes certain d'avoir pouvoir calculer 1 kg de riz. Alors, on va aborder une notion qui est quand même un petit peu plus complexe, c'est la notion de conversion. Et il y a d'ailleurs beaucoup d'adultes qui s'en mêlent les pinceaux sur les unités de mesure.
Ok, mais ben voilà, donc ça c'est maintenant plutôt pour les 8-10 ans. Hein. Quand vous notez la recette, faites deux variantes. Donc déjà calculez combien d'ingrédients faut-il pour un repas en famille, avec tout le monde qui vit chez vous maintenant, et combien d'ingrédients faut-il pour un repas de fête, si vous pouvez inviter d'autres personnes.
Alors là, il va y avoir de la multiplication, à mon avis.
Exactement.
Un repas de fête, il y a...
Vous devrez calculer combien il faut pour une seule personne pour vous faciliter la tâche. Hein.
Et après, on multiplie par le nombre d'invités prévus.
C'est ça. Important aussi, essayez de noter les mesures exactes pour les ingrédients. Donc, si vos parents vous disent, moi, il faudra une poignée, si possible, mesurez combien de grammes c'est une poignée de riz ou de haricots. Maintenant, on va faire un exemple ensemble de conversion. Moi, ça m'intéresse aussi que vous travaillez ça pour la recette, pour toutes les mesures. Par exemple, je reprends la rösti, ma recette.
Donc, les galettes, les fameuses galettes de pommes de terre.
C'est ça. Pour 4 adultes, il me faut, par exemple, 800 grammes de patates.
Ah.
Maintenant, on peut essayer de faire la conversion en kilos. Là, on sait 1 kilo, c'est 1000 grammes. Combien de kilos font 800 grammes de patates?
Donc 800 grammes, c'est forcément moins d'un kilo.
C'est moins d'un kilo, hein. Peut-être les parents peuvent aider si c'est trop difficile pour les enfants.
Mais alors, quelle est l'écriture mathématique de moins d'un kilo pour 800 grammes si on veut convertir en kilo?
Commencez par un zéro et une virgule. Moi, ça me fait 0,8 kg.
C'est ça. Donc 0,8 kg, c'est bien la même chose que 800 grammes. On est d'accord.
Exactement. Hein. On a converti les grammes en kilogrammes. Voilà. Donc ma rösti, il faut la rôtir 15 minutes. Et moi, ça m'intéresse ce soir. Combien d'heures sont 15 minutes? On sait de nouveau une heure, c'est 60 minutes. 15 minutes, ça fait...
Alors, 15 minutes, vous savez, pour nous, à la radio, c'est très facile parce qu'on a une pendule lumineuse qui voit défiler les secondes. Et donc, c'est un cercle, comme une pendule. Et donc, on sait que 15 minutes, c'est 4 morceaux. C'est comme un gâteau, exactement. Donc, on sait que c'est 4 morceaux qui vont faire toute la pendule et donc une heure.
Ouais, on revient à votre gâteau au chocolat, Emmanuel.
Oui, exactement, ça m'obsède.
Quatre parties du gâteau au chocolat, un quart d'heure, ça fait une heure. Plus compliqué, les secondes. 15 minutes, c'est combien de secondes? On sait, une minute, 60 secondes, ça fait 60 fois 15. Waouh, multiplication. Est-ce que vous arrivez à calculer ça?
Alors... Donc, 60 secondes multipliées par le nombre de minutes fois 15, ça va faire beaucoup, beaucoup de secondes.
C'est ça. Moi, j'arrive à 900.
Ouais, 900 secondes.
Bon, faisons encore quelque chose avec les décilitres et les litres. Si on veut, avec la rösti, les Suisses, les Alémaniques, ils boivent beaucoup de jus de pomme. On pourrait boire 2 décilitres de jus de pomme avec la rösti. Moi, ça m'intéresse de savoir de nouveau... 2 décilitres, c'est combien de litres?
Alors, dans un litre, il y a combien de décilitres ? Dans décilitres, il y a un D qui est aussi la première lettre pour le 10.
C'est ça, oui.
Et donc, dans un litre, il y aurait 10 décilitres ?
C'est exactement ça, hein. 10 décilitres, 2 décilitres, c'est moins que 10. Hein. J'arrive à voir, 0,2 litres.
Voilà, 0,2 litres. Donc, c'est la même chose, vous êtes bien d'accord, Sarah, vous confirmez que 2 décilitres.
C'est exactement ça, oui.
C'est le même calcul que ce qu'on a fait pour les pommes de terre. Hein. 0,8
kilos, c'est, la même, chose, hein,
c'est la même chose que 800 grammes de pommes de terre.
Voilà, et puis bon, sur mon petit bocal que j'ai pour mesurer, c'est même pas écrit litres et décilitres, j'ai que des centilitres. Hein. Et ça, on peut peut-être aussi regarder à combien de centilitres sont 2 décilitres, en sachant que 1 litre, c'est 100 centilitres. Hein.
Voilà, il suffit de regarder le mot centilitre, il y a 100. Donc il en faut 100 pour faire 1 litre.
Ouais. Et il nous faut 5 fois moins pour avoir les 2 décilitres.
Alors, on peut continuer comme ça avec les millilitres, Sarah, mais il faut qu'on se quitte. Hein. Je suis désolée, mais on va vous retrouver. On va vous retrouver demain, bien sûr, Sarah. Dernier jour d'école à la radio pour cette semaine. On va apprendre à savoir s'orienter. On reprendra aussi des calculs de surface dans la maison où vous habitez, les enfants. Et d'ailleurs, il faudra retrouver le mètre que vous avez confectionné avec Sarah pour la leçon l'autre jour. Sarah, avant qu'on se quitte, je voudrais préciser que vous avez publié « L'école à ciel ouvert » aux éditions La Salamandre, où il y a beaucoup d'activités dans ce livre. Et dans quelques instants, on se retrouve pour une histoire racontée, l'arbre qui parle. Ça sera juste après Gaëlle Faye et Kolinga. Merci à vous, Sarah. Très bonne journée.
Merci à vous et bonne cuisine.
Merci.
Jeter dans les eaux, un peu malgré moi, l'appel est si fort que je me perds un peu parfois qui on est, où l'on va. Au moins je sais qu'un bout de mon âme demeure chez toi. Congo, à l'image de ton fleuve, ton tumulte m'émeut et arrache tous mes masques. À nu je me jette à l'eau. Quel rôle m'offres-tu? Quel enfant suis-je pour toi? Le sage ou le têtu? Celui qui t'aime en tout cas te l'ai, je dis, le sais-tu? Congo, avec toi j'aimerais me lever. Congo, avec toi j'aimerais danser. Congo, avec toi j'aimerais avancer vers des jours plus beaux.
Et tout de suite, l'histoire racontée par Héloïse Oreilla, L'arbre qui parle, écrit par Hassan Kassi Kouyaté, inspiré d'un conte d'Afrique de l'Ouest.
Je m'appelle Kinga. Je vais inventer une histoire.
Il était une fois...
L'arbre qui parle. Un conte écrit par Hassan Kassi Kouyaté. Mon grand-père commençait toujours ses histoires par « Il était une fois ». Et un jour, je demande à mon grand-père « Pourquoi tu commences toujours tes histoires par « Il était une fois » ?» Il m'a dit « C'est pour être sûr de ne pas me tromper de date ». Et depuis, je commence aussi mes histoires par « Il était une fois ». Il était une fois Papa Hyène. Papa Hyène devait chercher à manger pour sa famille. Il a marché des jours, il a marché des nuits, et voilà qu'un jour, il voit un arbre et dit bonjour à l'arbre.
« Bonjour, arbre !»
Et l'arbre de répondre « Bonjour, Hyène !» Papa Hyène, surpris, il dit ceci.
« Quoi ? Un arbre qui parle ? Mais j'ai jamais vu ça, moi !»
À peine il a dit ces mots que l'arbre lui a donné une claque avec une branche.
Bah !
ne répète pas ce que tu viens de dire. Sinon, tu vas voir, lui dit l'arbre. Papa Yen.
Je ne dois pas dire un arbre qui parle ? Bah !
Je t'ai dit de ne pas répéter ce que tu viens de dire. Sinon, tu vas voir.
Je comprends pas. Pourquoi ? Je dois pas dire un arbre qui parle ? Bah !
Troisième claque de l'arbre à Papa Yen. On dit qu'un clin d'œil suffit à l'intelligent pour comprendre, tandis qu'il faut trois claques à l'idiot de temps en temps pour qu'il comprenne. Papa Yen a souri et il est parti appeler la girafe. Vous savez pourquoi il est parti appeler la girafe ? Il est parti voir la girafe pour lui dire qu'il avait quelque chose d'extraordinaire. Parce que la girafe, c'est l'animal le plus curieux de la brousse et de la forêt. Ce n'est pas pour rien qu'elle a le cou long. Elle veut toujours tout voir, elle veut toujours tout entendre. Elle est toujours là, comme ça, avec son long cou.
Qu'est-ce que je vois là ? Qu'est-ce que j'entends ici ? Hein ?
Quand la girafe est arrivée devant l'arbre, Papa Yen dit à la girafe de dire bonjour à l'arbre et de lui dire ce qu'elle verra. La girafe.
Bonjour, arbre !
Bonjour, girafe.
Quoi ? Un arbre qui parle ? Moi, j'ai jamais vu ça, moi !
La girafe reçoit une grosse claque de l'arbre, assommée. Papa Yen achève la girafe et apporte à manger à sa famille. Ragoût de girafe chez Papa Yen pendant un mois. Après le mois, Papa Yen devait chercher à manger encore pour sa famille. Il a pensé à l'hippopotame, parce que c'est l'animal le plus idiot et le plus gentil de la brousse et des eaux. Il est toujours là, il dit comme ça.
Oui, oui, c'est vrai, oui, 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 oui.
Il est toujours d'accord.
Ah oui.
Et il jette toujours l'eau comme ça. Psst.
Oui, c'est vrai.
Quand l'hippopotame est arrivé devant l'arbre, Papa Yen dit à l'hippopotame de dire bonjour à l'arbre et de lui dire ce qu'il verra. Et l'hippopotame,
bonjour, arbre.
Bonjour, hippopotame.
Quoi ? Un arbre qui parle ? Mais j'ai jamais vu ça, moi !
Bah ! L'hippopotame assommé. Papa Yen l'achève, apporte à manger à sa famille. Ragoût d'hippopotame chez Papa Yen pendant 2 mois. C'est ainsi que Papa Yen a assommé les animaux un à un. Restait Papa Lièvre. Quand Papa Lièvre est arrivé devant l'arbre, Papa Yen a dit à Papa Lièvre de dire bonjour à l'arbre et de lui dire ce que l'arbre fera. Papa Lièvre.
Bonjour, arbre.
Bonjour, lièvre.
Silence. Le lièvre ne dit rien. Papa Yen.
Hé, lièvre ! Tu n'as pas vu ou tu n'as pas entendu un arbre qui...
Le lièvre fait semblant de ne rien comprendre.
Un arbre qui...
Bon, tu vas ouvrir tes grandes petites oreilles et tu diras bonjour à cet arbre. Et tu me diras ce qu'il fera, d'accord ?
D'accord. Bonjour, arbre.
Bonjour, lièvre.
Silence.
Papa Yen en colère. Lièvre ! Tu n'as pas vu ou tu n'as pas entendu, mais un arbre qui...
Un arbre qui...
Mais... Un arbre qui parle, bon Dieu ! Oh ! Bah !
Papa Yen assommé. Ragoût de Papa Yen chez Papa Lièvre pendant 3 semaines. C'est pourquoi on dit que tu peux dire que tu es le plus intelligent de ta famille. Tu connais peut-être toute ta famille. Mais tu ne peux pas dire que tu es le plus intelligent du monde. Parce que tu ne connais pas tout le monde. Si tu te crois malin, tu trouveras toujours plus malin que toi dans la vie.
À méditer donc l'arbre qui parle, écrit par Hassan Kassikouyaté avec la voix d'Élise Oria, la mise en onde de Romain Dubrac. C'est un conte inspiré d'Afrique de l'Ouest et publié aux éditions Didier Jeunesse.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
7 milliards de voisins, l'école à la radio. On est en direct tous les jours sur RFI et il y en a aussi pour les grands qui se posent beaucoup de questions ces temps de pandémie. Bonjour Didier Akwété.
Bonjour Emmanuel Bastide.
Vous êtes en direct d'Abidjan et vous répondez à des questions d'auditeurs. Je vous rappelle, les voisins et les voisines, si vous êtes patron d'une petite ou moyenne entreprise et que vous êtes inquiet pour les fins de mois qui s'annoncent difficiles dans les semaines à venir, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Voici une question d'un patron d'entreprise du BTP à Lomé.
Bonjour 7 milliards de voisins, je m'appelle Yves. J'appelle de Lomé Togo. Je souhaiterais poser une question au coach Didier Akwété. Je dirige une entreprise de concession d'immeubles, de bureaux et d'habitation. Depuis le début de la crise liée au Covid-19, mon entreprise, comme beaucoup d'autres, subit la crise de plein fouet, avec une réduction drastique de nos activités. Notre type d'affaires est en chute libre, car les clients préfèrent en attente les travaux pour garder leurs économies par crainte d'une crise majeure. D'autant qu'on nous annonce le pic de l'épidémie chaque semaine. Deuxièmement, beaucoup de produits qui venaient du Ghana pour nos travaux ne nous parviennent plus en raison de la fermeture des frontières. Cela limite par conséquent notre activité. Enfin, une partie de nos employés, par peur de la maladie, ne viennent plus au travail. Dans les annonces faites par le gouvernement, aucune mesure spécifique n'a été prise pour soutenir notre secteur. Dans ces conditions, ma question pour le coach est la suivante. Comment puis-je faire survivre mon entreprise dans ce contexte si nous ne recevons aucune aide de l'État?
Oui, c'est pas simple, hein, Didier Akwété. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Effectivement, c'est pas simple, Emmanuel. Et je voudrais, bon, bien sûr, actuellement, c'est le personnel soignant qu'on encourage énormément, qui fait un travail formidable. Mais en Afrique, quand même, nos entrepreneurs sont des héros, des gens de temps normal et là, des super-héros. Donc c'est extrêmement difficile hein, pour de nombreuses petites entreprises qui ferment et le secteur du bâtiment n'échappe pas à cette réalité. Alors effectivement, par rapport à la question de Yves, j'ai pas de baguette magique non plus, mais ce qu'on nous apprend par exemple en marketing dans ces situations un peu particulières, c'est deux notions. La segmentation et puis l'analyse de son marché. La segmentation en gros, c'est dire à Yves, dans ce contexte difficile où beaucoup de gros travaux sont à l'arrêt, où il n'a plus de matériel, il faut absolument qu'il se concentre sur des segments de son activité qui ne nécessitent pas des gros budgets ni des gros matériaux. Ça veut dire se concentrer auprès de ses clients sur des petits travaux de réaménagement, peut-être de petites maçonneries, donc pas des activités qui sont forcément extrêmement génératrices de revenus, mais qui permettent de maintenir un minimum d'activité sans les matériaux. Deuxième concept, c'est l'analyse de notre marché. Alors, évidemment, c'est facile à dire, mais dans le cas de Yves, par exemple, la première question qu'on se pose en analyse de marché, quels sont les marchés qui, aujourd'hui, retiennent le plus l'attention? Évidemment, c'est les marchés qui sont liés à la question de la santé ou de l'agroalimentaire, comme on a parlé il y a quelques jours. Mais pour revenir à cette question de marché lié à la santé, Yves peut tout à fait imaginer proposer ses services à des cliniques, à des hôpitaux, à des dispensaires, à des centres de santé qui aujourd'hui ont besoin de faire des réaménagements spécifiques pour accueillir éventuellement les malades ou les personnes qui viennent se faire tester. Donc, il y a, comme on le voit dans beaucoup de bâtiments qui prennent des questions de santé, des petits réaménagements à faire.
Notamment d'installer des plexiglas pour se protéger des allées et venues, des patients, etc.
Exactement, ou des petits bâtiments mobiles pour que lorsque les gens arrivent, qu'ils puissent se désinfecter avant d'entrer dans les espaces où il y a les patients et les dons. Ces infrastructures sont des nécessités qui sont d'ailleurs parfois financées par les États. Deuxièmement, vous savez, les particuliers, hein, bien sûr, qui aujourd'hui préfèrent garder leurs petites économies, ce que je comprends, ont aussi besoin quand même de faire des petits travaux chez eux. Et c'est justement pendant le temps où ils sont à la maison, ils se rendent compte que les tuyaux ont pété, comme chez moi par exemple, où j'ai une petite inondation, ou une petite peinture qui a mal. Donc tous ces petits travaux chez les particuliers aussi peuvent se faire quand on cible bien ces segments de marché et aussi même les particuliers, leur proposer d'installer peut-être devant leur maison des petites, je vais appeler ça des centres de désinfection avant que les gens n'entrent dans les maisons, mais pas cher. Et je vois des solutions passer sur Internet qui aujourd'hui, on le vend en poupe, qui peuvent être proposées aux particuliers également pour garder un minimum d'activité. Ouais.
Donc vraiment se rapprocher finalement des solutions d'hygiène par rapport à ses, à son savoir-faire traditionnel de, d'aménagement de bureaux pour Yves, hein, c'est ça.
Et, exactement, et les appliquer au marché du moment, aux besoins du moment. Et puis notre idée aussi, par exemple, vous savez, dans ce contexte où les populations ont besoin justement de se laver les mains, de gel hydroalcool, etc., Yves peut tout à fait aussi proposer aux entreprises, aux banques, aux compagnies d'assurance, qui veulent faire de la responsabilité sociale d'entreprise, donc de la RSE, de financer par exemple l'aménagement de petits espaces où on se lave les mains dans les quartiers, des petites bombes. Bref, il faut absolument qu'ils se rapprochent des marchés du moment et trouvent des entités qui peuvent financer.
Et c'est vrai que les grandes entreprises ont besoin d'affichage, de montrer qu'elles sont présentes en ce moment. Et donc, effectivement, si Yves leur apporte une solution à mettre en œuvre, ça peut tout à fait fonctionner. Mais alors, par rapport aux fournisseurs, vous avez entendu dans le message d'Yves, il dit qu'il a des problèmes pour se fournir, notamment via le Ghana. Alors, je ne sais pas s'il fait allusion à du ciment ou autre, mais comment on fait quand les chaînes d'approvisionnement, finalement, sont défaillantes ?
Eh ben, c'est le problème de beaucoup d'entreprises. Et effectivement, si le Togo ne produit pas un certain nombre de matériaux, que la frontière du Bénin, du Ghana, du Nigeria, ses frontières sont fermées, il ne peut malheureusement que se concentrer que sur les matériaux qui sont disponibles au Togo. Et donc, quand il va approcher son marché, il faut absolument qu'il prenne en compte la disponibilité de certains matériaux localement, sinon il ne peut pas remplir la commande qui lui est passée. Donc c'est encore la nécessité de revenir à du local, produire local, consommer local, trouver des produits locaux. Et je sais qu'il y a beaucoup de produits à base de bois, par exemple, qu'on fait au Togo et qu'il pourrait peut-être utiliser pour construire ces petits centres de décontamination ou de désinfection.
Et donc, concernant la question et concernant la responsabilité de l'État, Yves demande, mais que pourrait faire l'État ?
Vous savez, les États aujourd'hui prennent des mesures qui sont malheureusement pour beaucoup de mesures d'affichage, hein, parce que les entreprises ne vont pas encore arriver, les subventions. L'État, dans ce contexte, doit soutenir massivement ces PME. Et moi, je crois beaucoup à la commande publique. L'idée qu'on donnait, par exemple, à Yves pour aménager dans les quartiers des espaces où les gens pourraient aller même faire prendre leur température, c'est des petites baraques mobiles. Oui. L'État peut tout à fait financer ces travaux et les confier à ces kyrielles de petites entreprises, de PME, pour qu'elles puissent survivre pendant ce temps, d'autant plus que ça répond à un besoin de santé publique. On ne demande pas à l'État d'aller construire des bars, des restaurants, des discothèques, mais simplement des petits espaces dans les quartiers où les gens peuvent aller se faire tester, etc., etc. Donc, la responsabilité de l'État est extrêmement importante. Et pour l'instant, je vois beaucoup de mesures, mais peu d'actions. Oui. Donc, c'est encore l'occasion de rappeler aux États leurs responsabilités.
Alors, il y a un fonds de 400 milliards de francs CFA qui a été annoncé pour préserver l'économie togolaise. Mais en même temps, la commande publique, vous en parliez, on peut quand même se poser la question avec un ralentissement économique. Il y aura forcément une baisse des recettes budgétaires. Donc, c'est pas gagné. Un dernier mot, Didier, il nous reste vraiment quelques secondes.
Oui, non, mais c'est toujours dire que cette histoire de Covid, on ne la passera pas si le partenariat public-privé ne fonctionne pas. Donc il faut que les États jouent aussi pleinement leur rôle et arrêtent les effets d'annonce, parce que je vois passer trop d'annonces et pas d'action sur le terrain.
Eh ben voilà, merci Didier Akwété. Beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, qui se posent des questions sur les orientations à prendre dans les semaines à venir, contactez-nous sur WhatsApp 33 1 84 22 71 71. Et demain, suite de l'école à la radio. D'ici là, portez-vous bien. Racontez-nous comment vous travaillez à la maison, que vous soyez enseignant, enfant, parent, grande sœur, grand frère. Les enseignants, on attend évidemment de vos nouvelles, comment vous maintenez le lien aussi avec vos élèves. À demain, même heure, même endroit. Dans quelques secondes, le journal.